Soyez les bienvenus sur France Inter, il est 8h. Le journal, Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous. On l'appelle Dorian, le plus violent des ouragans qu'ont connu les Bahamas. 300 km/h de vent, des vagues jusqu'au toit des maisons, récit dans un instant. Tuées par leur conjoint, elles sont 100 depuis le début de l'année. La dernière avait 21 ans, morte ce week-end dans les Alpes-Maritimes. Une femme a bien appelé la police, qui n'est pas arrivée à temps, nous l'entendrons. La rentrée des classes, on sera avec des lycéens. La rentrée sociale, avec l'un des principaux acteurs de cette rentrée. Il sera dans le bureau d'Edouard Philippe en fin de semaine et à ce micro dans 20 minutes.
Il s'agit, Florence, du secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, dans le grand entretien de la matinale. Laurent Berger qui publie par ailleurs « Syndiquez-vous !» point d'exclamation. C'est aux éditions du Cherche Midi. Intervenez, amis auditeurs, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
À la une également, nos impôts prélevés à la source avec un nouveau taux d'imposition en cette rentrée. Un fauteuil pour deux candidats de la majorité à Paris. Cédric Villani devrait se déclarer mercredi. Des décrocheurs au tribunal, décrocheurs de portraits du président. Et puis un casting somptueux dans le dernier Soderbergh, présenté à la Mostra de Venise. Une fable grinçante sur les Panama Papers.
France Inter.
Caraïbes, cocotiers et plages de sable blanc, les Bahamas ou le paradis sur terre, les Bahamas ou l'enfer depuis quelques heures. Le diable là-bas s'appelle Dorian, ouragan de catégorie 5, avec des vents de presque 300 km/h. Il balaye le nord de l'archipel, un ouragan comme nous n'en avons jamais vu, pleure le premier ministre des Bahamas. Gregory Phillips suit son avancée depuis Washington.
Priez pour nous, s'il vous plaît, priez pour nous, crie cette habitante de Mash Harbor, dans le nord des Bahamas, dans l'une des rares vidéos qui nous parviennent de la zone et publiées sur les réseaux sociaux. Sur ces images, on devine un appartement au toit envolé, l'eau qui monte autour de l'immeuble et la femme qui appelle à l'aide pour elle et sa petite fille de 4 mois. Pour l'instant, le ministère de la Santé des Bahamas dit qu'il est incapable de faire un bilan du passage de Dorian sur les îles Abaco. Les communications sont coupées, mais les premiers témoignages décrivent un chaos total, des maisons détruites, des arbres arrachés et surtout l'eau qui monte inexorablement par endroits, jusqu'à 7 mètres. Hier soir, le premier ministre des Bahamas a pu tenir une courte conférence de presse.
This is probably the most saddened and...
C'est probablement le jour le plus triste et le plus difficile de ma vie, confie Hubert Minis. En tant que médecin, j'ai été entraîné à supporter beaucoup de choses, mais rien de cette ampleur. L'ouragan progresse extrêmement lentement à 7 ou 8 km/h. En milieu de nuit, il a atteint l'île de Grand Bahama, la dernière avant la Floride. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et Dorian se rapproche effectivement des côtes de Floride où 800 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer, probablement pas avant demain. On attend son arrivée avec une intensité qu'on ne connaît pas encore. À l'autre bout du monde, la tempête anti-Pékin souffle toujours à Hong Kong après un week-end de violence. C'est l'appel à la grève générale et au boycott des cours pour la rentrée universitaire ce lundi. Les manifestants ont bloqué les métros et les trains ce matin à l'heure de pointe. Quel avenir pour cet élan démocratique, l'analyse de Pierre Aski, juste après ce journal.
Il est 8h04, Florence. On parle souvent de ceux qui se taisent quand ils entendent des cris et des coups.
Un homme frappe sa compagne, pas très loin, mais c'est leur problème. Ce samedi, à Cagnes-sur-Mer, les témoins ne sont pas restés passifs devant la scène qui se déroulait sous leurs fenêtres. Cela n'a pas suffi à sauver cette jeune femme de 21 ans, battue à mort sous les yeux de cette riveraine qui avait pourtant appelé la police.
J'ai demandé à l'aide une première fois, j'ai raccroché, ensuite j'ai rappelé à nouveau et je suis restée avec eux au téléphone jusqu'à ce que la jeune se fasse assassiner en fait. Il l'a battue à mort, il sautait sur elle comme sur un trampoline et il a fini par... Tout ça, j'étais en contact avec la police, hein, je leur expliquais tout en leur disant « Mais là, c'est fini, mais vous êtes où ? Mais enfin, là, je ne la vois plus, elle est morte cette petite, elle est morte, elle est morte. » Et tout ça en nous disant à la fin « Non, non, il n'y a rien, il n'y a rien. » Ils ont retrouvé le corps que le lendemain. Après moi-même, je culpabilise. On réagit pas tout ce qu'on pourrait. Ça aurait pu être ma fille, ça aurait pu être... Voilà.
Voilà, témoignage au micro d'Emmanuel Grabet de France Bleu Azur. La police explique que d'autres interventions ont pu retarder l'arrivée de la patrouille qui s'attendait à tomber sur une dispute et n'a pas pensé à chercher un corps retrouvé le lendemain, dissimulé en retrait sous un tas d'ordures. Le tueur présumé de cette femme est ce matin en garde à vue. Et puis alors que s'ouvrira demain le Grenelle des violences conjugales, France Inter vous fera entendre toute la journée des témoignages et des reportages journaux spéciale couronnée par un téléphone sonne.
Il est 8h05, Florence, les vacances sont longues mais pas éternelles.
Alors cette fois, ça y est, le réveil a sonné, il est temps d'y aller pour presque 12,5 millions d'élèves, rentrée marquée par la réforme du lycée en première avant le nouveau bac en 2021. Mais réforme ou pas, ce jour-là est toujours un événement pour ceux qui sont en train d'arriver sous vos yeux. Bonjour Sonia Princet.
Bonjour.
Vous êtes avec des élèves du lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise.
Oui, et ce sont les internes qui sont arrivés en premier avec leurs valises. Maëlle et Narimène font leur rentrée en seconde.
Moi, je suis pas stressée, mais je me suis levée tôt.
Oui.
Trop tôt pour
le
moi.
Le réveil, il est dur. Ouais. Mais sinon, ça va, pas trop stressée, mais on appréhende un peu.
Moi, je suis pressée, là. Pressée de découvrir l'établissement, d'assister au cours et tout.
De savoir comment les classes, comment c'est l'organisation aussi en internat, tout.
Ces lycéennes seront concernées par la réforme du lycée puisqu'elles devront choisir des enseignements de spécialité pour l'année prochaine, mais ça ne les inquiète pas trop.
Mais dans tous les cas, on aurait dû choisir si on devait partir en S, en L, etc. Donc dans tous les cas, on avait réfléchi. Donc moi j'ai réfléchi.
Pour l'instant, les élèves sont surtout impatients de connaître leurs emplois du temps. Certains sont arrivés très tôt devant le lycée. Mathéo attend avec son groupe de copains.
C'était dur le réveil. La nuit, elle était courte, mais sinon ça va. On est quand même contents de se revoir. On était tous du même collège. À Saint-Leu, et du coup on est tous venus ici. On espère être à peu près tous dans la même classe. C'est quand même 5 fois plus grand que notre collège, beaucoup plus d'élèves, puis c'est quand même des études un peu plus difficiles que le collège où il faut un peu plus travailler, du coup ça fait un bon changement.
Aujourd'hui, la journée sera quand même décontractée. Le lycée a organisé une course d'orientation pour aider les petits nouveaux à se repérer.
Ça, c'est sympa. Merci Sonia Princet en direct de Nogent-sur-Oise en région parisienne avec Alexandra Bergel. Et pour les ados et leurs parents, la corvée des fournitures n'est pas terminée. Tel prof demandera tel classeur, tel autre, telle calculatrice. D'où le débat chaque année sur le coût de la rentrée. Débat inexistant en Suède où tout est gratuit, même la cantine. Reportage à Stockholm, signé Frédéric Faux.
Stéphane, un Français installé à Stockholm, a vu ces derniers jours sa petite fille revenir à la maison avec toutes ses fournitures scolaires.
C'est les cahiers, les stylos aussi. En général, on nous donne en début d'année, puis après, il faut les renouveler si ça se perd ou si ça s'use. Pas besoin d'acheter des livres, c'est l'école qui les fournit. À la rentrée, il n'y a pas besoin de penser à grand-chose, ça c'est sûr.
Pour cet expatrié de longue date, les interminables listes de fournitures à acheter ne sont plus qu'un mauvais souvenir. En Suède, l'éducation gratuite est vraiment gratuite. Les communes doivent même, c'est la loi, offrir la cantine à tous et les voyages scolaires. Pour Erik Nilsson, qui travaille auprès de la ministre suédoise de l'éducation, c'est d'abord une question d'équité.
Nous avons eu des gouvernements sociaux-démocrates dans ce pays pendant de nombreuses années. Et l'une de nos idées fondatrices, c'est que l'éducation doit être gratuite. Donc les livres, les ordinateurs, les repas et toutes les fournitures scolaires. L'argent ne doit pas être un obstacle pour étudier. C'est la base.
Une gratuité totale et sans condition de ressources, pilier de la culture suédoise qui commence au jardin d'enfants et se poursuit à l'université. Stockholm, Frédéric Faux, France Inter.
Voilà, il faut quand même savoir que la gratuité se paye. La Suède a l'un des taux d'imposition les plus élevés au monde, jusqu'à 59% des revenus.
D'où justement cet autre sujet de rentrée, Florence, les impôts.
Et oui, si vous ne l'avez pas vu sur votre feuille de paye du mois d'août, vous le verrez peut-être à la fin du mois de septembre, cette différence de salaire à la hausse ou à la baisse qui dépend de votre nouveau taux d'imposition actualisé après votre dernière déclaration de revenus. Le fisc vous l'a communiqué en ligne ou par courrier. Les derniers avis arrivent ces jours-ci dans les boîtes aux lettres. Votre employeur, Delphine Simon, est donc en train d'adapter votre retenue à la source.
Cet avis d'imposition, c'est en quelque sorte la photo de votre situation fiscale. Il correspond aux revenus que vous avez perçus en 2018 et déclaré au printemps dernier. Durant l'été, l'administration fiscale a donc actualisé votre taux d'imposition. Les entreprises les plus réactives l'appliquent sur la paye du mois d'août avec un nouvel afflux de questions, explique Bénédicte Caron, chef d'entreprise dans la grande distribution.
Mes salaires d'août, je vais vous dire, j'ai plus de 400 collaborateurs. J'ai passé ma journée d'hier ou d'aujourd'hui à les vérifier. Celui qui était à zéro et qui reste à zéro, ben, ça change pas grand-chose pour lui. Mais on a les trois quarts de nos collaborateurs qui ont des taux qui ont déjà été révisés. Et on va avoir des questions dès le début du mois de septembre sur ce qui s'est passé.
Autre particularité, vous aurez aussi des montants à rembourser en cas de trop perçu pour les crédits d'impôt ou si vous faites partie des 2 millions de contribuables qui ont touché des revenus exceptionnels en 2018. Attention, cette année, le fisc ne prélèvera pas cette somme sur votre compte bancaire. C'est à vous de faire la démarche. Au guichet des trésoreries, si le montant ne dépasse pas 300 euros, et si vous choisissez de payer en ligne ou sur l'appli mobile, vous aurez un délai de grâce jusqu'au 21 septembre.
Et si vous le faites par courrier, vous avez jusqu'au 16 septembre pour payer. Aigle Azur, finalement placé en redressement judiciaire. La compagnie a décidé de déposer le bilan après une semaine d'imbroglio entre ses actionnaires. 1150 salariés concernés, sans doute nombreux, ce matin rassemblés devant le siège d'Aigle Azur. Il a fait tomber la lavalière et s'est offert une nouvelle coupe de cheveux. Cédric Villani devant la presse et ses soutiens mercredi qui s'apprête à faire dissidence à Paris, ce qui fera de lui le deuxième candidat en marche de la capitale face à Benjamin Griveaux, investi par le parti. Mais Paris vaut bien une bataille fratricide. Yaël Gauze, c'est le credo du député Villani.
Refaire de Paris une ville monde. Cédric Villani veut reprendre son projet là où il l'avait laissé. L'échec lors du grand oral devant la commission d'investiture le 9 juillet n'est pas digéré. Notre vision, nos intuitions sont les bonnes, continue à dire ses proches. L'équipe de campagne, mise en sommeil pendant l'été, se tient prête à être réactivée. Un noyau dur d'une soixantaine de personnes et près de 2000 soutiens qui avaient adhéré à sa plateforme. Rentré de vacances le 24 août, le député fait monter le suspense. Pas d'expression publique, mais des déjeuners très politiques, comme jeudi dernier avec Gaspard Ganzer, l'ancien bras droit de François Hollande, et l'ex-journaliste Isabelle Saporta, compagne de Yannick Jadot. Déterminé, Cédric Villani, mais pas très au clair sur ses alliances et sur les conséquences d'une dissidence. Il ne veut pas rompre avec Emmanuel Macron et la majorité. Or, en maths, ironise un cadre de La République En Marche, on ne peut pas additionner et diviser en même temps. La campagne ne fait que commencer, mais plusieurs ministres confient déjà leur pessimisme. À ce niveau de bazar, dit l'un d'eux, je ne vois pas bien comment on peut gagner. Or, Paris sera la vitrine des municipales pour Emmanuel Macron.
Yaël Gauze, on les a vus brandir des portraits d'Emmanuel Macron à l'envers, en marge du G7 de Biarritz, portrait décroché dans les mairies par ces militants du climat. Deux d'entre eux seront jugés cet après-midi à Lyon, sous les encouragements de leurs camarades qui ont prévu de se mobiliser autour du tribunal. Christophe Vincent.
Le 21 février, une quinzaine de militants d'ANV COP21 entrent dans la mairie du 2e. Deux d'entre eux décrochent le portrait du chef de l'État et l'emportent. « On l'a descendu de son piédestal », explique Fanny Delahalle, jugée cet après-midi. Elle trouve disproportionné le traitement infligé aux décrocheurs qui risquent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Ces militants-là sont traités de manière assez dure, hein, donc des procès, des perquisitions, ils sont amenés menottés chez eux, etc. Bon, ils sont prêts à ça, hein, mais et à côté de ça, les vrais criminels du climat ne sont pas du tout inquiété, donc c'est vraiment disproportionné effectivement.
Pour toucher l'opinion, les militants ciblent Emmanuel Macron. Ils lui reprochent de ne pas respecter l'accord de Paris.
Aujourd'hui, on nous emmène vers plus 3 à plus 4 degrés de réchauffement et ça, c'est une vraie catastrophe. Il a une responsabilité énorme dans cette crise climatique. Il a un pouvoir énorme. Il peut vraiment faire changer les choses et il n'est pas du tout à la hauteur. Alors, il a des beaux discours, mais dans les faits, on n'a rien.
Une marche jusqu'au tribunal, des conférences et des concerts gratuits sont prévus jusqu'à minuit. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Sécheresse et vent, cocktail incendiaire dans le sud de la France. Hier, c'est dans une commune limitrophe de Nîmes que le feu a pris avant d'être maîtrisé dans la soirée. Une vingtaine de personnes ont dû être évacuées. Météo France alerte sur des risques forts aujourd'hui de la Provence aux plaines du Languedoc. Deux résultats de football à retenir de la 4e journée du championnat hier soir. Victoire de Marseille contre Saint-Etienne 1-0. Défaite de Rennes 2-1 face à Nice. Et puis à New York, à l'US Open, abandon du numéro 1 mondial Novak Djokovic cette nuit blessé à l'épaule. C'est Stan Wawrinka qui passe donc en quart de finale. Il affrontera Daniil Medvedev. Serena Williams, elle, a rendez-vous avec la chinoise Wang. Gaël Monfils tentera aujourd'hui, ce lundi, de se qualifier pour les quarts en battant, s'il le peut, l'Espagnol Pablo Andújar.
8h15, attention, casting époustouflant à la Mostra de Venise.
Meryl Streep, Antonio Banderas, Gary Oldman, dirigé par Steven Soderbergh. Ça donne de l'Andromat ou le scandale des Panama Papers raconté de l'intérieur, Corinne Pellissier.
Si le réalisateur ne reprend pas à la lettre l'historique de l'affaire des Panama Papers, il s'en inspire sur le fond, démontant pierre par pierre tout le système de nos sociétés capitalistes dans une fable didactique et remplie d'humour noir.
Bribery, corruption. Where the fuck is my money?
Most of the time. We don't even know.
Et puisqu'il faut tout déballer, alors allons-y pour les secrets. Les jolis costumes et les sociétés offshore pour les clients de Mossack Fonseca, les contrats d'assurance véreux pour les autres comme Meryl Streep, victime d'escroquerie et bien décidée à ne pas se laisser faire.
Somebody's making money from it.
No, it goes back to this law firm, Mossack Fonseca.
De l'Andromat ou le guide de l'évasion fiscale pour les nuls, une mise en scène dynamique, des comédiens inspirés et souvent drôles, pour un message on ne peut plus clair, aller vers un système plus juste et en finir avec les produits bancaires.
Voilà, de l'Andromat, la lessiveuse, oui. Ou le lavomatique.
Oui, vu l'ampleur.
C'est selon. Ouais. Vous ne le verrez pas, ce film, sur les écrans, mais sur Netflix, où il sortira le 18 octobre.
Merci Florence Paracuelos.